Let me give the floor now to Jérôme Perret. I'm sorry for butchering some of these French names, if I am. Is it good?
Yeah.
Jérôme is an associate professor of sociology at the University of Toulouse, an associate researcher at École des Hautes Études en Sciences Sociales, and co-director of the Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Toulouse. And he studies political violence, terrorism, the confrontational dynamics between youth and police in urban areas in France and Spain. He's the co-chair of the first group on radicalization. So we'll hear from you for 10 minutes, and then we'll move on to the second speaker. That's okay.
Okay. Merci. Bien, je vais essayer de tenir les 10 minutes, ce qui va être compliqué parce que nous avons une séance très très riche. Je voudrais vraiment remercier mes coéquipiers, j'allais dire, parce que c'est une aventure collective, pour leur participation et leur créativité. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous avons... Je n'ai pas faire de synthèse, mais je vais faire essayer d'être fidèle à un état des lieux de la discussion qui a eu lieu hier et aujourd'hui, et vous proposer un squelette de ce que nous devrons nourrir, muscler. Pour le moment, on est à l'état de squelette sur la question de la radicalisation et du processus radicalisation-déradicalisation. Alors, nous avons prévu, repéré un premier point de discussion sur la définition. Or, sans entrer dans un débat théologique, l'idée de construire ce concept, quelle que soit la critique qu'on peut lui proférer, à partir de la notion de processus, processus individuel et processus collectif à la fois. Étant entendu que l'hypothèse forte dès le départ, c'est que on ne peut pas comprendre la sortie sans comprendre l'entrée dans ce processus, et que les politiques publiques devront comprendre pourquoi on entre pour essayer de cadrer leur action et de jouer sur des leviers de sortie. Donc les définitions, on s'est entendu sur le fait que c'est à la fois un concept psychologique, sociologique et géopolitique, et qu'il faut parler de radicalisation au pluriel. Étant entendu que nous axerions, mais c'est un débat qui a été très animé, sur la question de la religion et en particulier de l'islam, mais qu'on pourrait tout à fait entrevoir plein d'autres formes de radicalisation qui ne sont pas forcément des radicalisations violentes. D'ailleurs, avec la définition, la radicalisation entendue comme un processus qui dévie du statu quo culturel et qui mène ou pas, c'est bien ça qui est problématique, à la violence. Donc une idéologie extrémiste avec une volonté assouvie ou pas de passage à l'action. Alors, les dimensions analytiques que nous allons essayer de creuser dans ce chapitre collectif sont transversales, en accent sur la question de la radicalisation religieuse, mais on pourrait très bien parler de radicalisation d'extrême droite ou de radicalisation tout à fait différente, violente ou non violente, avec des aires géographiques qui concernent le Moyen-Orient, l'Europe et l'Asie centrale, puisque a émergé, et notamment un des membres du groupe, a apporté une connaissance et une information assez centrale, c'est-à-dire de nouveaux fronts peuvent émerger dans la géopolitique des radicalisations, et notamment l'Asie centrale post-communiste. Donc on assume, deuxième hypothèse, très fortement, l'hypothèse de la complexité, c'est-à-dire de la complexité et de l'indétermination. C'est-à-dire, ça, c'est très important. La ligne de force, c'est la subjectivation et la construction de ce processus. Soit on en reste à la radicalité, soit on passe à l'action. Et c'est cette articulation qu'il faut essayer de penser avec ce choix indéterministe très fort. Donc, le modèle qu'on essaie de proposer, il est composé de deux types de variables qu'on va mettre en contexte. Donc trois dimensions, deux dimensions, deux types de variables et une mise en contexte. Premier type de variable, les individus. Parmi ces individus, des facteurs d'entrée, voire de sortie, puisque ces facteurs peuvent être des facteurs d'entrée, mais aussi considérer que ça peut être aussi des facteurs de sortie, c'est-à-dire des facteurs non religieux. Premier type de facteur, le soi et la construction de soi. C'est-à-dire le rapport à soi, avec les sentiments de frustration, d'humiliation, etc. Les rapports, deuxième type de variable, les rapports au corps, au genre, à la sexualité. Troisième type de rapport, les rapports identitaires, l'auto-estime de soi dans sa propre culture, avec une question sous-jacente, celui du rapport à la mort. Du rapport à la mort et du délire que ça peut entraîner chez certains. Le rapport au risque, autre catégorie qui sera traitée par de chercheurs du groupe, c'est-à-dire avec une articulation qui nous semble absolument fondamentale entre délinquance et radicalisme religieux, c'est-à-dire comme si des gens qui avaient déjà eu une carrière avant considéraient que le risque était normal, il y avait une normalisation de la prise de risque. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Pour faire écho aux propos d'Olivier Roy hier, le religieux, alors là je laisse les facteurs religieux, et c'est-à-dire la très complexe relation entre le religieux défini de façon différente et la radicalisation, et puis des phénomènes beaucoup plus sociaux, c'est-à-dire la question du déterminisme social qui nous a coûté beaucoup de temps de discussion et qui est une vraie ligne de tension sur le déterminisme, l'origine sociale. Il y a des typologies qui existent et donc il faut discuter ces typologies et savoir si elles sont efficaces ou pas. Deuxième type de variable, les variables de groupe, les variables qui concernent le groupe. Et là, on a plusieurs dynamiques qui constitueront des sous-questions, des sous-chapitres. D'abord, les dynamiques culturelles, les contre-cultures, les mouvements, les sous-cultures qui permettent à l'individu qui s'est construit, qui s'est individué, de trouver un écho dans des groupes et une façon de se réaliser. À l'intérieur, il y a un très gros bloc qui est ressorti, et je pense que c'est une grande leçon de la richesse de ce groupe de travail, c'est une anthropologie de la famille, c'est-à-dire toutes les interrelations intergénérationnelles, interfratries, père, mère, famille recomposée, conflits familiaux, qui pourraient expliquer une forme de radicalisation, c'est-à-dire une analyse des dynamiques familiales, des dynamiques de mémoire à l'intérieur des familles, comment se transmet une mémoire comme elle est interprétée. Autre gros bloc qui va être traité par deux d'entre nous, c'est le bloc effectivement de la socialisation en ligne, hors ligne, et la socialisation notamment à travers l'outil numérique qui constituerait une forme d'alignement par rapport à la socialisation antérieure. Donc les relations au groupe, autre type de groupe, c'est-à-dire les institutions dites totales, c'est-à-dire les institutions comme la prison ou comme l'hôpital, qui pourraient constituer aussi des lieux de socialisation. Bref, toute une série de facteurs qui constituent aussi des facteurs de désengagement, c'est-à-dire de déception, de facteurs personnels. Le fait d'entrer en famille ou de trouver un écho familial est aussi un levier de sortie de la violence, de normalisation familiale en particulier. Et puis, deuxième type, le dernier type de variable, ce sont les variables globales, le contexte qui activera ces données individuelles ou ces données de groupe. Première ligne, les médias, les récits, les narrations, les formatages de la réalité sociale, c'est-à-dire une opinion publique, et en particulier une opinion publique des médias traditionnels, mais aussi une opinion publique qui constitue une opinion publique numérique et très spécifique. Très, très spécifique. On a deux très bons chercheurs dans le groupe. C'est-à-dire, ce sont des opinions où on va chercher autre chose que chez les médias traditionnels, ce qui va impliquer pour les politiques publiques de déradicalisation de comprendre pourquoi des gens vont s'intéresser à cette question-là sur Internet. Je crois que c'est très important. Idem pour l'économie au niveau global, et notamment l'économie souterraine et le financement qui est important, et notamment les liens entre économie souterraine et radicalisation, en particulier à travers l'âge adulte. Et puis, dernier type de variable, je suis dans les temps, je ne sais pas, je suis peut-être trop lent, qui est une question fondamentale, c'est le rapport au système politique et à la nature du système politique, en particulier la question de l'autoritarisme et du non-autoritarisme, du post-autoritarisme, c'est-à-dire c'est des retours de bâton, des retours de révolution qui pourraient conflictualiser ou radicaliser, c'est-à-dire revenir sur les expériences dans le monde arabe, revenir sur l'expérience d'Afrique du Nord, qu'on pourrait couper, je ne sais pas s'il y a une idée de débat, avec des expériences européennes qui constituent elles aussi des questions de crise politique, de rapport au politique et du rapport à l'État, c'est-à-dire le paradoxe de la mondialisation où on critique l'État, mais on va chercher des formes organisées de communautés, donc de relier ça à des recherches de stabilité, de ressources et d'État. Bref, revenir sur les ruptures, sur la crise du politique dans des contextes. Donc c'est un modèle ouvert, c'est des types de relations, c'est un modèle qu'on propose, assez ambitieux. On peut critiquer les niveaux choisis, mais de l'individu par l'organisation en passant par la mise en contexte nous semble un modèle relativement heuristique et intéressant qu'on soumet à votre critique.
Fantastic. And you were just on time. Thank you so much.